savez, c'est l'assassinat de cette jeune femme dans une voiture devant son bébé. C'est quand même, elle a reçu une dizaine de balles. Et alors, aujourd'hui, le suspect numéro un, qui n'a toujours pas été retrouvé, en fait, c'est le beau-père du petit ami de la victime. On serait dans une espèce de règlement de compte intrafamilial et pas lié au grand banditisme ou au narcotrafic, comme on avait pu l'évoquer. Enfin.
Oui, c'est pour ça qu'Éric Ciotti, d'ailleurs, a tout de suite réagi. Il est candidat à la mairie de Nice en disant « Nice ne doit pas devenir Marseille », parce qu'il était persuadé que c'était un règlement de compte entre narcotrafiquants, comme quoi parfois le responsable politique doit attendre quelques minutes supplémentaires avant de réagir. Ça lui évite de dire des bêtises, parce que c'est vrai, quand même, le mode opératoire ressemble à un mode opératoire de la grande criminalité, mais c'est visiblement un règlement de compte au sein d'une famille sur fond de violence conjugale. Alors, la jeune femme a 23 ans, elle est morte. Selon certains témoins, elle aurait protégé son bébé qui était à côté d'elle en se couchant sur lui. Lui, il est vivant, il a 7 mois, il a été pris en charge. Le suspect numéro 1, c'est le beau-père qui est recherché. On apprend, cerise sur le gâteau, qu'il travaillait au sein d'une école. Il avait d'ailleurs un logement de fonction dans cette école. Ça a été perquisitionné, mais on ne l'a pas retrouvé. Il y a quand même des faits extrêmement violents, une dizaine de balles. Le raid est intervenu. Et on apprend que ce beau-père était connu pour violence. Il avait d'ailleurs été passé sous contrôle judiciaire. Là, il y a sans doute eu un manque d'appréciation de la dangerosité de l'individu. Il faudra d'ailleurs que la justice s'en explique. Mais bon, en général, elle rend assez rarement des comptes, la justice, malheureusement. Bref, il y a toujours un homme dangereux dans la nature. Belle.
Un féminicide de plus. Et c'est vrai que Christian Estrosi, comme tous les politiques, doivent faire attention parce que le modus operandi ressemblait.
C'était Éric Ciotti.
Le modus operandi ressemblait effectivement à ce que l'on trouve dans les modes exécutoires du narcotrafic. Mais là, il semble que c'est une violence intrafamiliale. Comme tu l'as dit, l'auteur était en garde à vue pour violence aggravée. Faut rappeler que violence aggravée, c'est une violence qui laisse, et je parle sous ton contrôle, soit une ou des mutilations, soit quelque chose d'irréversible sur le corps. Donc c'est pas entre guillemets
ou avec une arme.
Ou avec une arme. Donc on avait quelque chose de très grave. Il y a eu un problème d'appréciation, mais ce problème d'appréciation, on le retrouve dans énormément de cas de féminicide, malheureusement, avec des dysfonctionnements. Et pour les militantes, notamment, que je côtoie beaucoup, c'est encore un scandale de trop. On voit que tout ce qui a été mouvement MeToo, ça n'a été qu'un mouvement médiatique, mais qui n'a aucun impact sur le terrain, parce que la France reste un pays où tous les 2 jours et demi à 3 jours, vous avez une femme qui meurt sous les coups d'un homme. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage de certaines personnes, parce que plusieurs personnes ont témoigné que cette dizaine de balles ont été tiré en deux temps. Il aurait tiré, on parle au conditionnel parce que faut attendre d'avoir plus d'éléments, il aurait tiré 4-5 balles d'abord, et comme il a vu que la personne respirait encore, il a encore tiré 4 à 5 balles. Et si c'est confirmé, ça c'est le modus operandi classique du pervers narcissique en fait, qui lorsqu'il tient sa proie, lorsqu'il s'estime propriétaire du corps de la victime, en l'occurrence d'une femme, lorsqu'il fait mal à la personne, que ce soit une violence physique ou psychologique, il veut voir que la personne rêve sous ses yeux. Et c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, mais malheureusement, ça arrive trop souvent. Et pour finir mon propos, il y a quelques semaines, parce qu'il y a la question du contrôle coercitif que la justice prend trop peu en compte, je discutais avec une ancienne victime de violence conjugale qui m'expliquait avoir pris 2 balles dans la jambe uniquement parce qu'elle voulait sortir, aller faire la fête avec ses copines, et que le mec qui voulait contrôler tout son écosystème, toutes les personnes qu'elle avait le droit de contacter ou pas n'étaient pas d'accord. Il a sorti une arme, il lui a tiré dessus.
Là, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait le bébé de 7 mois qui était sur le siège passager, devant. Ça ne l'a pas arrêté.
Il avait tous les signes. Enfin, comme Abel l'a dit, je le répète à chaque fois qu'on a un sujet de ce genre, soit sur des violences sexuelles, soit sur des violences physiques, une femme n'a pas de valeur judiciaire. On en a la preuve à chaque fait divers. Cet homme, le suspect numéro 1, qui a été condamné pour violence aggravée. Il n'a pas mis juste une gifle à sa femme, bien que ce soit déjà trop tard. Violence aggravée. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à violence aggravée, il y a eu combien d'avertissements qui a été donné, soit par elle, soit par les gens qui ont été témoins. Faut pas se dire, il a fait un acte. Il en avait déjà fait beaucoup. Donc cette personne-là, un homme violent avec une femme, est un homme violent qui le sera toujours. Ça ne se soigne pas. Vous êtes comme ça et c'est terminé. Et cette personne-là, alors que normalement une violence aggravée sur qui que ce soit, c'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, il part avec un contrôle judiciaire. Et après, on est là en se disant, c'est un drame. Non, ce n'est pas un drame. Un homme qui tire sur une femme à bout portant. Donc,
il aurait dû être derrière les barreaux.
Mais il aurait dû être derrière les barreaux. Il aurait dû être derrière les barreaux. Il aurait dû être signalé pour violence et avoir notre fameux fichier de violence, de violence physique et de violence sexuelle.
Donc, ça veut dire qu'on a mal évalué
sa dangerosité. Oui, moi, j'estime que c'est pas la faute des,
pour les... Et qu'on n'a pas su protéger la société.
Bizarrement, j'estime que c'est pas la faute des policiers. Parce que si cet homme-là a été condamné avec un contrôle judiciaire, ça veut dire que les policiers ont fait leur travail. Ça veut dire que le jugement de violence aggravée a été donné par la justice et qu'il a eu une condamnation trop petite. Mais il a eu une condamnation. Donc les policiers ont fait leur boulot. Ils ont pris la femme en charge. Ils l'ont livrée à la police. Encore une fois, la justice, la vie d'une femme n'a pas une importance particulière.
Oui, mais enfin, on met des gens en détention préventive parfois pour moins que ça. Si
bah oui.
Bah voilà.
Dire, non, mais il faut changer la loi.
Le juge, je sais pas s'il faut changer la loi.
Si, il faut changer la loi. On a parlé tout à l'heure. On a eu un débat. Tout à l'heure, on a eu un débat.
La loi, elle existe.
Non, mais il faut la durcir.
Au moment où il y a pas de
jugement. Non, elle est déjà.
Il y a 50 000 euros.
Arrêtez de dire qu'il faut durcir les lois puisqu'on les applique
mais
pas.
Mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Moi, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. J'assure les gardes à vue depuis des années et des années. Je vous ai dit que 80% des motifs de garde à vue que je fais, c'est des violences conjugales. Quoi.
Ah voilà. Mm-hmm.
Donc il y en a marre, quoi. Comme tu dis, les femmes sont considérées comme moins que rien. C'est la réalité.
Oui.
Les gendarmes et les policiers font le job. Ça a profondément changé. Eux prennent au sérieux les choses, mais manifestement la justice s'en contre.
Ils ont même fait évoluer leur manière de recueillir le témoignage.
Il y a à la fois les textes de loi, et puis il y a la justice qu'on apprend quand on est gosse dans les familles. On lève pas la main sur une femme. Je veux dire, on l'a tous appris.
Oui, mais d'accord.
Là, mais je veux dire, quand on en est là dans une société à faire cette barbarie-là, à tirer sur une femme avec un gosse sous son ventre,
c'est terrible.
Mais je veux dire, c'est...
Je voudrais interroger le médecin justement. Quand tu fais les gardes à vue. Tu es face à la personne, d'accord, qui s'est rendue coupable de violence familiale. Mmh. Est-ce que tu arrives à mesurer sa dangerosité et à dire à ce moment-là, attention, là on a une bête sauvage qui à un moment pourra passer à un cran supérieur ou commettre l'irréparable. Parce que ça elle est là la question.
Mais,
puisque lui il est déjà condamné pour violence aggravée, on ne le met pas derrière les barreaux. Donc ça veut dire qu'on sous-estime sa dangerosité.
Moi il ne m'appartient pas de juger. Moi je suis médecin, oui, je suis juste là pour voir si l'état de santé est compatible avec les gardes à vue.
Tu peux voir
mais il m'appartient pas de juger et même je te dirais que la plupart du temps le motif je ne le connais pas. Ça se fait à huis clos et à huis clos, je peux interroger la personne et savoir qu'est-ce qui l'amène là. Mais logiquement, j'ai pas à savoir le motif. Bon, je ronds le truc à certains moments, mais je dois dire que la plupart du temps, c'est ça. Mais ce qui est certain, c'est que on le sait tous, quelqu'un qui lève la main sur une femme, ça n'ira qu'en grandissant. Ça ne s'arrête pas. Si la justice ne tape pas fort, ça va continuer. Ça va continuer. Et la première chose à faire, c'est d'éloigner la personne de
la femme en question. Mais la famille, parfois.
C'est ce
qui
n'est pas fait. C'est très compliqué.
Je sais que c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut changer un certain nombre de choses.
Mais aussi, quand t'as une femme qui se prend une gifle, qu'on parle à sa mère, à son père, à sa cousine, et qu'on lui dit, oui, mais il était agacé. Il était agacé parce qu'il a raté son match.
Et il y a toujours des bonnes excuses. Et tu sais, t'as posé la question sur le fait que ça se passe devant un bébé. Le pervers narcissique, il en a rien à faire. Le 7 janvier, Miora Raoni Malala, 46 ans, elle a été poignardée à mort par son mec devant leur fille de 9 ans. Qu'est-ce qu'il a fait le mec après? Il a poignardé la fille de 9 ans et après il a essayé de se suicider en se poignardant dans le cou. Et moi, je dis toujours aux jeunes filles auprès de qui j'interviens, arrêtez d'accepter que les mecs vous frappent. Arrêtez d'accepter que les mecs vous insultent même. T'es une connasse, t'es une ceci. Non, la violence, elle commence déjà verbalement. Arrêtez d'accepter que les mecs vous balayent. Le mec, il vous touche une fois, partez. Vos histoires de « mais je l'aime », partez parce qu'il recommencera. Ça peut plus
continuer. Oui, mais il y a le risque. Il y a le risque justement de pour celles qui se disent si je pars qu'est-ce qui va m'arriver
je suis d'accord là il y a ce cas
après. Dans ce cas-là c'est pour ça qu'il faut mettre le type sous contrôle judiciaire
Antoine, il y a des prisons
et on va aller sur des tabous. Laisse-moi aller sur deux tabous parce qu'on est aux grandes gueules.
Dans les pays tu les loues.
Des fois, je suis désolé. Il y a aussi le côté culturel.
Oui,
exactement.
Et je pense à Khadija, je suis désolé, hein. Et je suis pas raciste, je suis noir. Quand tu es d'origine africaine.
Ça, ça n'aurait
dit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Non, mais je fais une boutade. quand tu es d'origine africaine, que ce soit maghrébine ou subsaharienne, c'est plus dur pour elle.
Bien sûr.
Parce que t'as toujours des gens qui vont dire, attention, la communauté, attention, ça va être rattrapé par l'extrême droite. Elles sont de plus en plus nombreuses à ouvrir la, à, comment dire, à se libérer la parole pour
parler
dire que, attention, à parler,
parler
ouvertement. Ouais. Parce que c'est pas normal. Oui, mais tu vois, si on dit que le mec c'est un arabe ou c'est un noir, l'extrême droite
non,
va le reprendre.
Homme.
C'est pas une question politique, là. C'est un homme qui frappe une
c'est
femme.
Un
que
non.
le mec soit blanc, noir,
oui,
arabe,
non, ça...
d'origine asiatique, d'origine indienne, on s'en fout. Et vous avez
non,
énormément
dis,
de personnes.
Non,
il peut y avoir le poids culturel
mais
aussi.
Bien entendu, mais ouais. ce sont les premières
non,
à parler.
Poids,
ce
le...
sont les premières à parler de
le...
dire, il faut pas trop le dire parce que sinon ça va être rattrapé par l'extrême droite. C'est pas un sujet
oui, mais
politique.
Il y a aussi, il y a pas, y a pas que
femmes.
Ça. Nous on le voit dans nos cabinets. Si tu veux, on reçoit des femmes qui sont victimes de violences et ce qui prévaut quand même d'abord, c'est la peur, quoi. Elles
mais
ont
bien
peur.
Entendu, mais ça,
elles
c'est
ont
la...
peur pour leur intégrité physique, pour leurs gosses. Elles savent pas que faire parce que si elles fuient, elles ont peur de se faire rattraper, qu'est vengeance ou autre. Elles ont peur, elles ne savent que faire.
Mais ce que tu
elles
dis,
osent pas porter plainte, etc.
Mais tu
et donc,
as raison.
Si tu arrives pas à pousser les choses, ça en reste là bien souvent, quoi. C'est ça le drame. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que d'un iceberg qui est énorme. Mais la partie immergée, elle est pire.
Il faudra quand même s'interroger sur son emploi aussi. Que faisait-il dans une école, un logement
il y a... T'as le droit, c'est pas grave.
Non, c'est pas
non,
ça.
T'as,
c'est
le droit, t'as le droit de taper les femmes, ce n'est pas grave. Tu n'es pas jugé comme quelqu'un
quel est,
de
quel
mauvais.
Quel est le profil? Est-ce qu'il était connu pour être violent? Enfin, il y a des choses
non,
à creuser. Là.
Non, son seul casier judiciaire, c'était
mais
pour
de
avoir
toute façon, les
permis.
Pervers narcissiques sont toujours géniaux. Et le deuxième tabou, très rapidement, sur ces questions-là, moi j'en veux... à l'ensemble des cultes religieux où on a des témoignages en pagaille où quand la femme va voir l'homme ou la femme de Dieu ou la personne qui gère les cultes, mon mari me frappe, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie, il va changer. Combien de fois on l'a pas entendu? Mon mari touche l'enfant, ma sœur, soumets-toi à ton mari, prie jeune. Et les trois monothéismes sont concernés. Je ne dis pas que 100%, dans 100% des cas ça se passe comme ça, mais on a énormément de témoignages. Et la question du viol conjugal, elle n'existe même pas. Dans
non,
certains
c'est
cas,
le devoir.
Parce que vous
c'est
êtes marié, la femme doit rester soumise à son mari. Donc parler du viol conjugal, ça n'existe pas. Donc il faut que vraiment la France puisse se réveiller sur cette question. Et c'est aussi
leader,
un échec d'Emmanuel Macron parce qu'il avait dit que ce serait une priorité de son mandat.
Si vous aviez encore un doute, vous êtes bien. Écoutez les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On était en train de parler de ce crime qui s'est produit à Nice et puis on a le témoignage de Jenna qui est arrivée. Jenna, bonjour.
Bonjour.
Oh oui, je vous
bonjour
remercie
Jenna.
D'être avec
bonjour.
Nous, Jenna, bonjour. Parce que vous nous avez appelé parce qu'en ce moment même, vous vous cachez toujours de votre ex-mari.
Mmh. Oui, bah, je pense que ça sera définitivement comme ça. Pas le choix. Je n'ai
Pourquoi
pas le choix parce que c'est soit je protège ma vie ou... Bah, c'est malheureux d'en arriver là, mais à partir du moment où on passe 15 ans de sa vie à vous menacer... à vous dire, je vais te planter, je vais te jeter de l'acide, je vais te... Enfin, au bout d'un moment, c'est soit je choisis de partir et je prends le risque ou...
Ça a été 15 ans de violence?
Ben oui.
Quel type de violence?
Tout. Tout, psychologique, physique, bousculade, crachat, tout.
Et qu'est-ce qui vous a empêché de partir avant?
L'emprise. Je me rends compte, et ça fait très peu de temps que je m'en rends compte.
C'est pour que les gens l'entendent.
C'est une emprise, parce que je suis quelqu'un qui a un fort caractère. J'ai toujours... je suis une personne forte, je le sais maintenant, parce qu'avant, je ne le pensais pas. Mais en fait, j'ai été quelqu'un de forte, mais malheureusement, ce besoin d'être aimée, ce besoin de ressentir cette présence, parce que voilà, c'est quand même ces gens, ces personnes avec ce caractère ont une présence qu'on ne peut s'empêcher d'avoir. On en a besoin, alors qu'au final... Tout est faux, tout est manipulé, c'est
irréel. Jenna, parce que là vous dites je me cache toujours, mais le pardon de ma question, mais le pire que vous ayez vécu, ça a été quoi?
Ben en fait, ça a été le déclencheur de tout ça. Donc notre fils est arrivé. Les violences ont toujours été présentes et un jour je dormais et il m'a asséné de coups au visage. Je me suis levée et je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance, je ne sais pas comment, et je me suis réveillée avec mon fils en pleurs dans mes bras. Je ne sais même pas comment j'ai atterri dans le lit. J'avais mon fils dans les bras en train de pleurer, je me réveillais de ses coups, et voilà. Et déjà, ça a été un déclencheur. C'est ça qui m'a permis de me lever et d'aller au poste.
Mais
je me suis dit, pour cet enfant, il faut que je sorte de là. Et pour lui, c'est même pas que pour moi.
Mais vous avez porté plainte?
Oui, j'ai réussi à porter plainte, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
La police a très bien fait son travail. Ils sont intervenus. Il a été emmené. Et la suite n'a pas...
C'est-à-dire, pourquoi?
Ensuite, il y a eu le jugement. Malheureusement, moi, j'étais encore un peu sous emprise. Ça n'a pas été facile tout de suite pour moi de tout dire.
Et oui.
Et donc, il a eu un sursis. Bon, après, je suis un peu restée encore, mais... Et puis après,
vous êtes restée avec lui quand même après?
Alors, il n'y avait pas de droit de contact, mais voilà, ça n'a pas été respecté. Parce que de toute façon, lui est revenu. Et voilà, il peut pas s'en empêcher. C'est pour lui, c'est comme une drogue. Il peut pas s'empêcher d'avoir cette emprise. Et voilà, moi je me suis fait avoir. Hein, oui.
Et vous pensiez qu'il pouvait changer ou non?
Est-ce qu'il vous promettait de changer?
Non, ouais. Sur le coup, oui. On se dit toujours.
Et oui.
Mais c'est vraiment quand je suis partie que j'ai eu le temps. Parce que je vous dis, ça fait un mois et demi que je suis partie. Je crois que ça fait qu'un mois que je me suis relevée. Là, que je commence à me relever, que j'en parle, que j'arrive à en parler avec cette force que j'ai retrouvée.
Mais
parce que non,
pourquoi,
c'est pas possible.
Pourquoi vous vous cachez? Vous avez peur de quoi?
J'ai trop peur. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur. Chez moi, j'ai 40 caméras. Tous les jours, avant de rentrer chez moi, je regarde s'il y a personne devant ma porte de suspect. Je suis toujours
parce
dans cette
angoisse. Parce qu'il vous menace encore.
Il a enlevé son jouet.
Il vous menace encore.
Mais c'est...
Ou lui a enlevé son jouet, il veut le récupérer.
Il vous menace encore?
Non, j'ai plus aucun. Alors là, j'ai tout changé. Hein. Ma vie, j'ai changé de numéro, changé mes adresses mail, tout. J'ai tout coupé.
Et avec l'enfant, comment vous faites?
Eh ben, on passe par une association de visite. Pour l'instant, c'est une association donc je dépose, je ne vois pas monsieur. Et je vais le récupérer. Mais après, la justice m'oblige à le donner de main à main.
Durant ces 15 ans, est-ce que vous avez eu du soutien au sein même de la cellule familiale ou pas, ou de sa propre famille à lui? Est-ce que vous leur en avez parlé en disant il est violent, aidez-moi, faites quelque chose?
Non, sa mère était présente, elle savait tout, elle entendait tout, mais
voilà.
Ils ont une emprise sur toute la famille. De toute façon, en général, ces gens-là, ils ont ce truc de dominer tout leur entourage. Ils sont vus comme des hommes, des dieux à l'extérieur en plus, parce que vraiment tout le monde ne lui lance que des louanges.
Et vos parents?
En intra, c'est tout le contraire.
Vous avez été aidé, vous, par votre famille? Vous avez du soutien?
Oui, j'ai ma mère qui était là, qui essayait de comprendre, qui essayait de m'aider, mais malheureusement, quand on est pris, on se dit qu'on nous comprend pas et tout, mais en fait, si, mais voilà.
Votre maman?
Comment?
On essaye de vous faire parler parce que votre témoignage peut impacter des milliers de femmes. Votre maman, elle vous disait quoi?
Est-ce qu'elle disait vraiment les mots? Mais je le voyais à son regard, déjà. Déjà, à son regard. Et puis après, des fois même, on a envie de dire qu'on esquivait le sujet. Mais je le savais. Au fond, moi, je le savais ce qu'elle pensait, en fait. Mmh. Et puis, des fois, elle me disait que c'était pas normal, le comportement qu'il a. Mais après,
Je comprends pas, Jenna, pourquoi du côté de sa famille, alors que c'était su que vous preniez des coups et que vous étiez battue, pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas aidé?
Parce qu'il faut pas nuire à l'image.
Ils ont fermé les yeux. Pourquoi ils ont fermé les yeux?
Je crois qu'à un moment, vous parliez aussi des communautés.
Exactement.
C'était quelle communauté? Je comprends pas. Dites-moi.
Il est tunisien. Voilà. Musulman. Donc, la famille, c'est sacré. De toute façon, c'était toujours deux. Il y a deux côtés. Je sais pas comment l'expliquer, mais surtout dans cette famille-là, personne parle. Il faut pas. On parle pas de privé. C'est chacun fait à sa manière comme il veut.
Et à chaque fois, des circonstances atténuantes mises en avant, non?
Après, voilà, le pauvre, toujours. Ah. J'ai envie de ressortir le mot victimisation. Je suis désolée, mais c'est ça. J'ai envie de le. Il faut le dire.
Est-ce que je comprends
après,
pas?
C'est des victimes, les pauvres.
Ce que je comprends pas. Et pardon, moi, je suis effaré par les décisions de justice en général, et là en particulier, pas qu'il ait encore un contact avec son enfant. Je veux dire, quand on bat la mère. quand on bat la mère de ses enfants, on ne doit plus avoir la garde.
Mais ça arrive.
Je suis désolé.
Mais
oui. on doit perdre l'autorité.
C'est pour ça que les femmes demandent.
Et donc, et d'ailleurs, ça permet d'ailleurs de couper le lien. C'est-à-dire, oui, ça obligerait. Là, quand même, Jenna est obligée d'avoir encore un lien avec son bourreau.
Mais parce que le civil, parce que le pénal et le civil sont séparés. Le mec, il peut être condamné.
Tu peux m'expliquer tout. Mais là, c'est une question de bon sens.
Mais je t'explique d'où vient le problème. C'est pour ça que les personnes demandent un tribunal familial comme ce qu'on a en Espagne ou au Canada, où le civil et le pénal sont traités au même endroit. Parce que le mec peut se faire condamner. Il peut même avoir une injonction. Tu n'as pas le droit de l'approcher à moins de 1 kilomètre. Je donne un truc comme ça. Mais t'as un juge des affaires familiales qui va estimer que le père doit toujours avoir accès à son enfant.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Jenna ?
Le droit du père prime en ce moment. Oui, il n'y a que ce mot à la bouche. Pauvre, il lui faut son droit de père. Oui. L'enfant ne peut pas vivre sans son père. Si, je suis désolée. Voilà. Moi, j'assume très bien mon enfant. Il ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de cet homme dans notre vie.
Et il n'a sans doute pas, lui, besoin d'un père violent, en plus.
Non, mais c'est pour ça que tu as aussi, malheureusement, des femmes qui restent, parce que souvent, la maman prend les coups pour les enfants, et que tu, dans l'idée de laisser ton enfant seul avec ce bourreau, tu restes pour protéger ton enfant.
Dans les GG de Jenna, je vous demande de rester avec nous. On va continuer la discussion, parce qu'on a un autre témoignage qui vient d'arriver. Témoignage fort, et qu'on va écouter, celui de Jean-François, qui, lui, a été condamné pour violence. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Vous avez été condamné pour quel type de violence ? C'était contre votre conjointe ?
Oui, alors j'ai été condamné donc il y a 3 ans pour violence conjugale, car c'est de violence verbale et psychologique. Donc ma femme en avait marre. Alors moi, je ne voyais pas du tout ce que je faisais. C'était un peu dans du normal, je vais dire. Donc ma femme en a eu ras-le-bol et un beau jour, j'étais en repos et j'ai la gendarmerie qui est arrivée, arme au poing, puisque j'étais chasseur, donc il y avait des armes à la maison. Et je suis parti en garde à vue pendant 48 heures. Donc ça fait drôle, on se demande pourquoi. On cogite beaucoup pendant 48 heures. Et voilà. Et donc je tenais à témoigner. Alors c'est pas évident, je suis un peu ému. Je tenais à témoigner parce qu'en fait j'ai entendu beaucoup de choses. Alors, je fais pas une généralité, attention.
Vous êtes fait soigner ? Vous êtes fait aider ?
Alors je vais être très clair. On ne change pas un homme violent. C'est clair, c'est net.
Merci de le reconnaître.
Merci de le dire.
On change pas une merci personne. Jean-François.
Mais moi, j'ai eu beaucoup d'aide. Ouais. J'ai été suivi par le SPIP dans les Landes. J'ai été suivi par l'ADAVEM 40, qui est une association qui s'occupe des victimes, mais des auteurs aussi. J'ai eu un suivi psychologique. Et en fait... je me suis nettement amélioré parce qu'on m'a donné des outils pour redescendre ma tension, pour redescendre mon énervement.
D'où vient cette violence que vous avez en vous ?
Alors, tous les suivis psychologiques que j'ai effectués démontrent que ça vient de mon enfance.
Vous l'avez subi lorsque vous étiez enfant ?
Non, j'ai pas subi, j'ai vu.
Vous avez vu ?
C'est le schéma qui se répète.
Vous avez vu la violence de votre père ?
Oui, tout à fait, ouais. L'alcoolisme, la violence, oui, tout à fait, ouais. Alors, je tiens à dire que c'est mon vrai prénom, hein. Donc, j'ai pas honte de ce que j'ai fait,
Jean-François, non, mais c'est bien
de témoigner. C'est très important ce que vous faites.
Mais Jean-François, quand ces pulsions de violence arrivent, qu'est-ce que vous faites maintenant pour essayer de les maîtriser?
Alors, je la sens arriver déjà. Donc, j'arrive. Le but d'un homme violent, en fait, pour que ça cesse, il faut surtout pas aller dans le conflit. Je vais vous dire, moi, j'ai été condamné, donc voilà. Ça fait 3 ans. J'avais 2 ans de probation et donc il y a un an, j'avais toujours un peu de contact avec mon épouse, puisqu'on a un petit. Il y a un an, mon épouse m'a proposé de revivre ensemble. Voilà. Et ça fait un an que je suis revenu au foyer. Alors, on est divorcé, elle a voulu divorcer, mais elle m'a laissé une seconde chance. Il y a un an, ça fait un an que je suis avec elle, avec mon petit.
Et alors, ça se passe bien ?
Ouais, ça se passe. Alors, il y a toujours des petits moments, comme dans chaque couple, de petites engueulades, de ceci, de cela. Mais il faut redescendre, quoi. Il faut se dire, voilà, hop, stop. On va pas monter, on va pas aller dans le conflit. On s'est engueulé, c'est tout, c'est passé, terminé, quoi.
Moi, Jean-François, je voudrais vous remercier, parce que, au-delà du courage que vous avez de témoigner, votre parole vient de donner une légitimité à un nombre de femmes dont vous n'avez pas conscience. Je vais pas vous glorifier. Vous êtes l'un de mes combats principaux. Mais ce que vous venez de dire là, vous venez de donner raison à énormément de femmes et de dire ce n'est pas de votre faute, le problème vient de moi. Alors ensuite, il vient de problèmes plus vieux, mais c'est important qu'il y ait aussi des gens qui en parlent quand ils ont été bourreaux.
Je remercie Jenna et Jean-François pour ces deux témoignages forts maintenant qu'on a eu dans les GG. Merci à tous les deux.